Chapitre deuxième. 11 heures déjà. Parti dès le matin, l'embaumé ne revenait pas. Simone, pleine d'entrain, en jeune fille qui n'a pas peur de mettre les mains à la pâte, prépara le déjeuner, désireuse de se surpasser, songeant que l'aimé prendrait place près d'elle et qu'ils pourraient s'embrasser à la dérobée, comme deux amoureux, quand la petite ouvrière s'ingénierait à ne pas voir. La batterie de cuisine de l'embaumé n'était pas luxueuse. Une poêle, une cocotte, une grande poterie jaune vernissée pour cuire le bœuf, un petit plat en émail, 12 assiettes dont 6 creuses et 6 plates. Ajoutons à cet inventaire le filtre en fer battu et un petit moulin à café si vieux qu'il n'avait presque plus de dents. Les 2 fourchettes et les cuillères qui composaient le service de table sortaient de chez Christophe. Les verres à initiales, verres incassables, n'étaient pas en cristal de roche. Tout cela était rangé sur les planchettes d'un placard mal dissimulé par le papier de tenture défraîchi au contact des mains. Ce placard contenait encore un fourneau que l'ouvrière glissait sous le manteau de la cheminée au jour de gala, c'est-à-dire au jour de cuisine chaude. Le plus souvent, en effet, elle dînait, au retour de l'usine, 2-4 de charcuterie assaisonnée de petites rondelles de cornichons. Le fourneau posé sur une plaque de zinc, la chambre de l'embaumé se transformait en cuisine. La petite parisienne disait d'ailleurs, volontiers à ses amis, « Viens donc voir mon appartement. » De fait, sa chambre se divisait en plusieurs pièces. Le cabinet de toilette, qui était le coin où luisaient les bancs de faïence des petits pots, la chambre à coucher occupée par le lit et la moquette à coque secouant leur crête rouge, le salon meublé de la table ronde et des chaises pourpres, décoré de l'échelle montante des photographies rieuses. Avec 2 sous de carbonate, elle faisait la toilette du parquet, un parquet d'argent, alors que les riches marchent sur un parquet d'or. Grâce aux pièces sonnantes luisant dans la bourse à mailles de métal emportée lors de son évasion de la maison paternelle, Simone crut pouvoir préparer une grande dinette de fiançailles. Elle rédigea le menu, le front coupé par une vilaine ride, tant elle s'absorbait en la recherche des mets qui pourraient lui être agréables, puis fit la moue devant le fourneau, songeant qu'elle ne pourrait pas exécuter les petits plats si simples, cuisotés autrefois devant elle, par un professeur de cuisine décoré qui faisait des effets de manchette en tournant une omelette qu'il avait baptisée du nom de Sarcey. Maladroite à user de ses doigts pour dresser la table, elle cassa l'un des verres incassables, descendit 6 étages pour le remplacer et n'en trouva point de semblable, oublia d'acheter du vin, dégringola dans la cage de l'escalier si souvent qu'elle finit par ne plus rire de se voir dans les glaces des devantures en petite bonne qui va aux provisions. Elle rougit du sourire de commisération qui balafra les bajoux grasses de la concierge en passant devant la loge, balbutia chez le boucher, se montra si confuse en l'achat d'un quart de beurre que la fruitière lui chipa 4 sous. Les fournisseurs chipent mais ne volent pas, puisqu'ils rendent au client la monnaie étalée sur le comptoir. Quand elle eut garni de roses blanches les 2 pots de la cheminée, quand le couvert mis, elle surveilla, assise, les petits nuages de vapeur sortant par bouffées de la cocotte ronronnante comme une chatte. Simone était plus lasse qu'au temps où elle venait d'exécuter 1/2 douzaine de sauts périlleux au trapèze volant. Cependant, l'espoir du revoir lui mettait au coin des lèvres le sourire de ceux qui se parlent en dedans de choses gaies. Énervée bientôt par 10 nouvelles minutes d'attente, elle se leva, visita la chambre de son amie, tambourina aux vitres de la fenêtre, se coula derrière le rideau blanc à grand ramage, le front appuyé sur le verre. Brusquement, elle eut la vision du Paris pittoresque, faite pour les seuls habitants des mansardes, panorama merveilleux, où des toits se hérissaient, fumant leur brûle-gueule, où des pans de murs semblaient d'or, où des vitres incendiées par le soleil plaquaient de taches blondes des édifices mauves, violets, roses. Des toits en zinc accroupis tachaient de gris-argent des massifs d'un vert noir. De vieilles tours se dressaient grimaçantes. Des cheminées colossales étaient piquées comme pour servir de jalons, à quelques traces de grandes routes dévastatrices. Un nuage fit une ombre sur une partie de la ville, et Simone vit 2 Paris, l'un paré de couleurs vives, l'autre estompé, assombri, couvert de dépiqués de points noirs. Elle songea qu'en un de ces points noirs, des êtres mouraient, aimaient, se laissaient vivre. Elle se sentit toute petite, toute faible, tourna la tête vers la chambre pour mesurer du regard la place qu'occupaient les choses autour d'elle. Un enfant hurla au-dessous, à l'étage inférieur. de ce hurlement continu et octeux des bébés qui se révoltent contre la souffrance. Elle se retira de la fenêtre, vint s'asseoir près du fourneau, enfouit son visage dans les roses qui mouraient sur la tablette de la cheminée. Elle dit, à voix distincte, « Je l'aime, je l'aime !» Pour se rassurer, pour se faire plus courageuse contre l'envie de pleurer qui montait de ses flancs secoués par des frissons chauds. On heurta à la porte. Simone entr'ouvrit lui, vit l'embaumé seul sur le palier, fit « Ah !» les lèvres en mou, les yeux coléreux. Les deux petites amies rangèrent deux chaises l'une près de l'autre et s'assirent, regardant le même objet, la cocotte qui chantonnait sur le fourneau. Silencieuse, l'embaumée prit les mains de Simone et laissa pleurer son amie, puis elle la gourmanda, lui caressant les doigts. Après un hochement de tête de révolte contre le chagrin, Simone s'efforça de sourire et dit « Voyez, je ne pleure plus ». Une de ses larmes s'attardait encore dans le creux des chairs à l'attache de la narine. « Vous le verrez demain, aujourd'hui peut-être. Pourquoi pleurer ?»« Mais vous voyez bien que je ne pleure pas. Dites-moi tout, tout, je veux tout savoir. » »« Je devais retrouver M. Bamberg chez lui, dans la petite maisonnette qu'il a louée dans le village près de l'usine. J'arrive. La femme qui fait son ménage et qui habite le rez-de-chaussée me dit « M. Bamberg n'y est pas, mais voilà une lettre que je dois remettre à la personne de Paris. » Je lui réponds « La personne de Paris, c'est moi. Donnez-moi la lettre. » dit brusquement Simone. « Vous savez bien que je ne le reverrai plus, puisque vous n'osiez pas me remettre la lettre. » Elle déchira l'enveloppe d'un coup d'ongle, froissa le papier en le dépliant et lut tout bas. « Cher aimé, je pars, n'ayant pas le courage d'attendre que la petite amie qui veut notre bonheur aide à votre délivrance. Je pars et vous demande pardon de tout le mal que vous a fait mon amour. Je ne puis commettre le vol dont m'accusent déjà M. et Mme Gosselet, et pourtant je n'ose vous dire adieu. Quelque chose qui est peut-être ma conscience m'oblige à ne pas vous revoir, à vous fuir même. Cependant, j'espère vous revenir plus adorateur que jamais, plus faible aussi, plus simplement homme. Bourgeois, je souffre d'avoir été élevé dans le respect de principes façonnés à la longue par des gens habiles à se créer une domestication déguisée. Je vous aime. Vous ne me détestez point trop. Nous nous marions sans nous occuper des fluctuations de la rente à 3%. N'est-ce pas naturel ? Sans doute. Mais en vous épousant, j'épouse aussi la fortune de M. Gosselet, qui, marié à une fortune équivalente, aurait procréé, dans quelques 10 ans, une troisième fortune, une fortune mangeuse de milliers de petits salaires. C'est une des formes, et non la moins commune, du progrès. Je ne dois pas faire mon bonheur en gênant ce M. Progrès. Je vous dis toutes ces choses parce que vous êtes une originale petite fiancée raisonnante et raisonneuse. Je vous le dis aussi pour que vous ne doutiez pas de mon besoin de vous, de mon amour d'homme résolu à tout pour vous gagner. Pourquoi ne pas vous prendre tout de suite, comme vous le vouliez par joie du sacrilège, comme je le désirais, par crainte de vous perdre ? Vous vivrez plus tard au milieu de ces mêmes bourgeois qui coursussent à l'amoureux pauvre comme les paysans donnent la chasse aux chiens enragés. Je ne veux pas qu'on accuse ma femme d'avoir cédé à un appétit de chair. Je ne veux pas que des médecins excusent sa faute en invoquant le nom de quelque maladie étrange inventée depuis peu. Les femmes, ma chère aimée, ne vous pardonneraient pas d'avoir été une bonne petite amoureuse sincère, tout en vous plaignant tout haut d'avoir succombé devant la tactique amoureuse d'un jeune homme en roublard. Les hommes me jalouseraient d'avoir gagné de l'argent si vite, tout en admirant en moi ce que l'on nomme l'absence de préjugés. Ah, si j'étais un simple manœuvre, et si les miens n'avaient pas autrefois porté des masques dans le jeu social, je me révolterais peut-être, par imprudence, et nous ferions un délicieux ménage montré au doigt, mais heureux malgré tout et contre tous. Je sais que dans cette comédie qu'est la vie, comédie montée par des habiles, des acteurs jouent de bonne foi, comme si c'était arrivé, selon l'expression populaire. La hautaine, Madame Gosselet, le bon papa Gosselet, souffrirait par nous et pour nous du mépris public. C'est ce que je ne veux pas. Que faire pour vous mériter ? Gagner de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Voici ce que j'ai décidé. Je veux être décoré. Je veux pouvoir vous troquer contre un bout de ruban grand comme ça. Gagner au Dahomey en quelques combats où je tuerai peut-être des femmes, non, des Amazones. Quand j'aurai du sang à la boutonnière de ma redingote, je n'en voudrais guère mieux. Mais M. Gosselet pourra mettre une petite croix dans le bottin derrière la raison sociale, Gosselet, Bamberg et compagnie. Et le monde ne saura gré de ne pas avoir bravé les préjugés, les bons préjugés. Je vous aime. Quelle drôle de lettre de fiancé à fiancé. Soyez sans crainte. Je vous aime trop pour ne pas vous revenir de chez Béanzin. André Bamberg. P.S. Votre réclusion au couvent des Visitandines n'a point trop altéré votre bonne santé, mon aimé. J'espère vous faire oublier plus tard les heures d'ennui. Si je ne réussis pas à vous rendre heureuse, je serai un grand coupable. Je n'ai parlé que de moi dans cette longue lettre. Je ne veux pas vous dicter de lignes de conduite pour le temps où je serai loin de vous. Mais il est de votre intérêt de laisser croire à M. Gosselet que vous êtes une petite fille obéissante et oublieuse. Lettre suivra, mon aimé, adressée à notre ami l'embaumé, à cette bonne amie que vous devez aimer déjà comme une sœur. À vous, cher aimé, A. B. Oh, le grand fou! M'abandonner pour ne pas déplaire aux autres, il dit il oublie que je lui sacrifierais bien autre chose que le respect humain, moi. Voyons, mademoiselle, il faut se faire une raison. Et il me conseille de rentrer à la maison paternelle, de désavouer notre amour. Il ne m'a jamais assez aimé. Pour m'aimer tout bonnement, sans phrases, sans faire d'études sur la question sociale, il a raison. Mais je ne suis pas une fiancée comme une autre. Que m'importe les qu'en dira-t-on, les on dit, les il paraît. Peut-être est-ce parce que vous n'êtes qu'une femme que vous pensez comme ça, mademoiselle. Il vous quitte. Il va se battre au Dahomey. Pourquoi faire? Pour revenir. Les amoureux font tous comme ça. Pour revenir décoré. Ça, c'est joli d'être décoré. Ce qu'en regardent les hommes qui ont un ruban, un omnibus. Aller se battre quand ils devraient. Ça, c'est une lâcheté. Oh, mademoiselle, bon, voilà que vous allez pleurer. Peut-être que ça vous fera du bien. Il ne m'aime pas. Mais si, mais si. Cependant, le feu s'éteignait dans le fourneau, et la cocotte ne ronronnait plus en crachant des jets de vapeur. La petite ouvrière dit, pour faire diversion, « À table, j'ai grand faim. » Après le repas, consommé en toute hâte, l'embaumé mangeant en heures continuelles de fourchettes, de couteaux, d'assiettes, pour donner de l'appétit à la malheureuse fiancée, Simone dit, résolue, « Maintenant, mon ami, à vous de me rendre un nouveau service. Puisqu'André me fuit, il faut que je me résigne à l'attendre, seul, loin de ma famille, gagnant mon pain, ce qui ne m'a d'ailleurs jamais effrayé. » Et l'embaumé posa brusquement sur la table la petite pile d'assiettes qu'elle allait enlever. « Comment? Comment? Voilà que vous allez faire des bêtises. Mon père m'a traité de fille. Je ne rentrerai chez nous qu'au bras de mon mari, au bras du petit ingénieur sans le sou. Mais mademoiselle, c'est impossible. Impossible? Croyez-vous que je ne suis pas courageuse? Mais il faudra travailler. Vous ne savez pas travailler. J'ai appris la couture au pensionnat laïque. Je suis capable de fanfrelucher mes robes moi-même. Je sais broder aussi. Je fais un peu de tapisserie. Je ne dis pas non. Mais travailler pour gagner sa vie, c'est autre chose. Travailler, mademoiselle, c'est se battre avec l'ouvrage. C'est pousser l'aiguille dans l'étoffe quand on n'y voit plus, quand les paupières vous brûlent, quand le poignet vous fait mal, quand des mains vous tordent des choses dans l'estomac, quand vous avez comme une boule de plomb dans le crâne, une boule qui vous courbe le visage sur la besogne enragée. Travailler, c'est se lever à 5 heures, lasse, c'est se coucher à 11 heures, morte de fatigue. Tout ça, mademoiselle, pour 40 sous, si vous faites de la confection chez vous, pour 3 francs, 4 francs, si vous êtes ouvrière chez un grand couturier. Travailler, ce n'est pas chiffonner de la dentelle par distraction, ou dessiner des papillons sur un canevas avec des laines de couleurs différentes. Alors, ma petite l'embaumée, j'apprendrai à travailler. J'ai assez d'argent pour attendre que je puisse gagner mon pain, grâce à l'habileté et à l'activité que j'aurai vite acquise. Mademoiselle, je suis votre amie, n'est-ce pas? J'ai fait pour vous tout ce que j'ai pu faire, mais je n'ai guère pu. Écoutez un bon conseil. Allez dire à M. Gosselet que vous êtes prête à réfléchir sur les inconvénients de votre mariage. Demandez du temps. Gagnez du temps. M. Bamberg reviendra, et alors? Je vous assure, mon ami, que je suis bien décidé à gagner ma vie en petite ouvrière qui attend son amoureux parti au loin, en campagne. D'ailleurs, vous travaillez bien, vous, sans espérer des jours de repos, sans entrevoir un horizon de bonheur. Moi, mademoiselle, c'est bien différent. Quand je vois comment marche le monde, quand je pense aux injustices de la vie, je me console en songeant que l'on m'habituait à toute petite à travailler. Le turbin, j'ai ça dans le sang. Mon père et ma mère travaillaient dur. J'étais haute comme ça que j'aidais ma mère à coudre des sacs au retour de l'école. J'allais au lavoir avec des charges qui écrasaient mes pauvres petites épaules. Il le fallait bien, puisque père venait manger tous les soirs et qu'il oubliait de nous laisser l'argent de sa paye pour acheter le fricot du lendemain. Pauvre mignonne. Ce que j'ai fait, bien d'autres le font aujourd'hui, bien d'autres le feront demain, quand on mange en travaillant. On est heureux. Le malheur est qu'on n'a pas toujours d'ouvrage. Et votre père ? Père était bon ouvrier, mais pas buveur quand il vint à Paris avec maman. Puis un jour, on le mena au poste, parce qu'en passant, il avait touché le coude d'un sergot. Ça, voyez-vous, ça lui donna la haine du gouvernement. Il se mit à fréquenter les marchands de vin, à faire de la politique. Quand il me prenait sur ses genoux, il disait de grandes phrases, me promettait des bagues, des bracelets, m'annonçait que je serais habillée plus tard comme une fille de riche. Maman lui faisait de grands yeux sévères quand il nous proposait de partager avec ceux qui ont tout l'argent. Il me faisait peur un peu, mais il n'était pas méchant et obéissait de suite quand mère l'envoyait se coucher. Père fut tué par l'explosion d'une chaudière de son usine. On nous donna 400 francs. Ce n'était pas beaucoup, mais maman avait trop peur de la justice pour faire un procès au patron. Peu après, mère tomba malade à la suite d'un chaud effroi. J'avais beau me lever matin, je n'arrivais pas à gagner assez d'argent pour la soigner comme j'aurais voulu. À la mairie, on nous donna des bons de pain. Des bons de pain, ce n'était pas suffisant pour guérir maman. Elle mourut juste au moment où on allait la porter à l'hôpital. L'hôpital. Elle en avait si grand peur que cela peut être hâté sa fin. Voyez-vous, mademoiselle, il n'y a que les Parisiens qui demandent d'aller à l'hôpital. Les ouvriers venus de province n'aiment pas mourir avec des carabins. Le pharmacien et le propriétaire payés, il ne me resta guère que la moitié des meubles de pauvre maman. Je les vendis parce qu'ils me rappelaient des souvenirs trop tristes, et j'allais habiter avec une amie qui travaillait chez votre père. Depuis, je me trouve presque heureuse. J'économise 60 francs par an, mademoiselle. 60 francs parce que chez nous, il n'y a pas de chômage. Votre passé est bien triste, mon ami. C'est le passé de tout ou de presque tout. Allez, vous êtes toujours résolue à... Toujours. Comme je ne puis pas être une très habile couturière, nous travaillerons ensemble à des travaux de confection, si vous le voulez bien. Soit, à nous deux, nous pourrons peut-être ne pas être trop malheureuses. D'ailleurs, je ne tiens pas à vous quitter si vous jouez au jeu dangereux de petite ouvrière. Encore, mon ami, voilà mon appoint dans notre maison de commerce. Ce disant, Simone vida sur la table le contenu de sa bourse à mailles d'argent. Elle poussa du doigt les pièces d'or vers l'embaumé, comptant 100, 200, 300, 400, 450. Nous sommes riches. Riches. Quand nous aurons acheté de quoi vous meubler une toute petite chambre sur mon carré, il vous restera bien 150 francs. Bast, c'est suffisant pour attendre le travail, ma petite lambeaumée. Et appelez-moi Simone. Simone tout court. Sans mademoiselle. Ne sommes-nous pas des amis d'atelier ?